Tous les vendredis, dans Vivre FM, c'est vous, la parole aux aidants, les proches de personnes dépendantes. C'est peut-être votre cas, vous vivez peut-être en compagnie d'une personne âgée, handicapée ou malade. Vous rencontrez vous-même des difficultés, vous pouvez en témoigner dans cette émission. Vous pouvez nous poser vos questions en notant cette adresse témoignage@vivrefm.com. Il y a aussi le téléphone, si vous le souhaitez, 01 56 88 40 20. Vous bénéficierez des conseils précieux de votre psychologue Michel Guimet-Chimbonnet qui est avec nous. Bonjour Michel.
Bonjour Christophe.
Merci d'être ici une nouvelle fois pour cette émission régulière, hebdomadaire. Place au témoignage dans quelques instants avec Hélène. Hélène est avec nous au téléphone. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Hélène, vous êtes la maman de Marjolaine. Marjolaine a 23 ans. On a découvert le début de cette histoire la semaine dernière. Elle est atteinte d'une maladie rare, le syndrome Sapho. Elle a 23 ans, je le disais. Et elle a une sœur qui s'appelle Sandrine, qui est sa sœur aînée. Alors, en même temps, elles sont très proches. Vous dites qu'elles ont été élevées pratiquement comme des jumelles.
Hein. Oui, parce qu'elles n'ont que 16 mois d'écart. C'était un choix de notre famille. Et elles ont grandi ensemble. Elles ont fait leurs bêtises ensemble. Elles ont beaucoup de complicité. Et ensuite, quand la maladie de Marjolaine s'est un petit peu plus précisée, Sandrine a eu... Un peu de mal. Elle-même avait un rythme de vie assez intense de son côté entre sa scolarité et son travail de danseuse. Donc elles se sont par la force des choses un petit peu éloignées.
Qu'est-ce qui lui a fait peur? C'est le fauteuil par exemple qui l'a beaucoup choqué?
Ça lui a fait un choc pour sa sœur, mais je pense que rétrospectivement, elle a peut-être eu peur pour elle. Elle s'est demandé si éventuellement il n'y avait pas, elle n'aurait pas quelque chose. Mais en fait, elle ne voulait pas. Et heureusement, tout va bien pour elle. Mais je ne sais pas trop parce qu'elle est assez réservée. Et à ce moment-là. Elle avait du mal à accepter parce qu'elle un peu comme son père, elle n'arrivait pas à accepter que sa sœur souffre. Mais elle ne le voulait pas. Donc c'est tout à fait compréhensible. Et donc du coup, elle-même s'est réfugiée dans toutes ses activités à elle. Et par contre, elles se sont mieux comprises. Marjolaine a pu lui expliquer ce qu'elle vivait et mieux lui faire comprendre à partir du moment où elles ont vécu dans un même appartement en colocation toutes les deux pendant un an, quasiment. Sandrine a pu mieux appréhender les difficultés de sa sœur.
C'était loin de chez vous parce que vous vivez en Charente et là c'était en Savoie. Qu'est-ce qui fait qu'elles ont été toutes les deux au même endroit au même moment?
Alors c'est parce que Sandrine est partie pour ses études en Savoie et donc en 2008 sa sœur est allée aussi puisque en fait sa sœur était en train de faire sa deuxième formation, sa formation de reconversion pour faire un CAP petite enfance. Elle avait des stages à faire et elle a trouvé un stage à Chambéry où vivait sa sœur, ce qui fait que ça lui a permis de continuer. À l'époque, elle faisait ses études par le CNED. Elle a fait ce stage là-bas, elle faisait ses études chez sa sœur et ça leur a permis de se retrouver, de se rapprocher, de mieux se comprendre. Ça a été très fort pour elle et je pense que c'est une expérience intéressante.
Michel, est-ce qu'on peut comprendre que la maladie, le handicap, alors peut-être pas sépare, parce que c'est pas si simple, mais modifie la relation entre deux sœurs?
Oui, parce que forcément ça fait peur. Et en plus, quand c'est une maladie un peu mystérieuse, comme le sont les maladies rares, il est certain que chacun se demande s'il n'est pas porteur lui aussi, mais un porteur encore non déclaré. Donc forcément la grande sœur a pu avoir peur d'être atteinte elle-même un jour par quelque chose du même ordre. D'autre part, c'est vrai aussi ce que Hélène a dit la dernière fois où nous avons parlé, c'était que être devant quelqu'un de malade, ça réduit à une impuissance radicale. On voit l'autre souffrir. On ne comprend pas pourquoi et on a le sentiment de ne rien pouvoir faire pour l'aider, pour le soulager. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre. Donc forcément, si on n'arrive pas à affronter cette situation, la tendance est de prendre la fuite. Mais Je dirais c'est normal.
Oui, c'est normal.
Alors Hélène, elles ont vécu là, en l'occurrence, vous le racontez, pendant un an ensemble. Qu'est-ce qui a changé? Comment ça s'est passé?
Ben, ça a changé qu'elles ont eu elles ont pris le temps d'en parler. En plus, il se trouve que sa sœur commençait à vivre avec son amie. Donc, ils étaient trois dans l'appartement. Et donc, comme elle a été obligée d'expliquer à l'amie de sa sœur aînée ce qu'elle avait, tout ça, en fait, Sandrine a bénéficié des explications. Oui. Et comme Marjolaine a su un peu vulgariser tout ce qu'elle avait compris avec l'aide aussi de l'association qui a beaucoup... qui lui a permis de comprendre beaucoup de choses en discutant avec d'autres malades, avec les gens du conseil d'administration qui sont très dévoués pour expliquer. Et puis, on a un conseil scientifique dans l'association très disponible et qui explique très bien les choses. Voilà, donc elle a pu elle-même mieux comprendre sa maladie. Et puis, elle, malheureusement, elle en a l'expérience aussi. Donc, du coup, elle a su expliquer. Et donc, son beau-frère, entre guillemets, a mieux compris les choses lui aussi, l'a bien admise. Et sa sœur, à d'autres moments, quand elles étaient seules, a pu se permettre de lui poser des questions pour approfondir et puis se rendre compte qu'elle était passée à côté de certaines choses pendant un temps. Voilà, mais bon, du coup, elles ont retrouvé leur complicité d'avant. Même si
cette colocation, ça,
elles ont un plaisir extrême à se retrouver.
Ça vous a plu, cette colocation, Hélène? Ça vous avait inquiété ou qu'elles soient loin toutes les deux ou...
Pas du tout, parce que bon, entre le téléphone, internet. Voilà, on a quand même... je leur ai fait confiance, elles se sont débrouillées, voilà. C'est, même une fois, il y a eu une urgence où Sandrine a pris une après-midi de RTT pour emmener sa sœur à l'hôpital parce qu'il y a eu un événement avec justement la maîtrise de ses mains. Elle a eu des soucis à ce moment-là avec ses bras. Voilà, elle s'est organisée, elle l'a emmenée. Donc, non, ça c'est... J'étais pas inquiète, en fait, parce que... Non, ça s'est vraiment très bien passé. En même temps, ça a été plusieurs mois de un petit peu de répit pour nous aussi, en tant que couple. Ça nous a permis aussi de nous retrouver dans un autre quotidien qui nous a permis de souffler aussi un petit peu.
Michel, une réaction sur ces deux jeunes filles qui ont choisi de partir loin pour leurs études, avant tout.
Oui, tout à fait.
Et comme toutes les autres jeunes filles et les autres jeunes garçons, et qui ont choisi cette colocation et qui se sont retrouvées.
Mais c'est tout à fait formidable, parce que en effet, loin des parents, elles étaient chacune responsables de l'autre, indépendamment de la maladie. C'est ça qui est intéressant. Et je suis très contente de cet exemple qui est donné là, parce que ça montre bien que quand on explique les choses au fur et à mesure de ce qu'on a compris, forcément, ça fait tomber les barrières. Et il y a pas de mystère, il faut parler. Il faut expliquer ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Et à ce moment-là seulement, les autres peuvent comprendre et arrêter d'inventer, de fantasmer, d'imaginer toutes sortes de choses qui sont toujours plus compliquées que la réalité.
On le voit, Hélène, hein, que sa sœur Sandrine a mis du temps à comprendre, à connaître un peu tous ces aspects de la maladie et tout ce que ça implique. Vous êtes vous-même engagée dans l'association dont on parle là depuis un petit moment à l'antenne. Vous êtes vice-présidente de l'association AIRSS, l'association pour l'information et la recherche sur le syndrome Sapho. Alors, c'est une question un petit peu récurrente et peut-être en même temps un petit peu bête, mais qu'est-ce qui vous a poussé dans cette association? Vouloir aider les autres? Vouloir en savoir un maximum?
Alors, c'est les deux à la fois, en fait. D'abord, pour chercher de l'information pour nous, pour notre fille, et ben justement aussi pour sa sœur, pour son père. Voilà, et puis pour rencontrer d'autres personnes, pour permettre à ma fille de communiquer par le biais du forum avec d'autres malades, de pouvoir poser ses questions directement au conseil scientifique. Voilà, c'était une manière aussi de ne plus se sentir seule, parce que avec les autres personnes, on parle de choses qu'on connaît tous. Et puis j'ai rencontré aussi d'autres familles, d'autres aidants. Qui ont soit un conjoint, soit leur enfant qui est malade. Et voilà, ça nous a permis de nous soutenir mutuellement. D'ailleurs, on continue à le faire.
Le syndrome Sapho, c'est une maladie rare. Donc peut-être, j'imagine que les personnes qui sont atteintes sont réparties, étalées dans le territoire. Vous arrivez à avoir tissé un réseau, un lien?
Alors, beaucoup sur le réseau virtuel à travers le forum, hein, oui. Et aussi, on a eu l'occasion de se retrouver. Alors, on se retrouve avec un grand plaisir chaque année au moment de l'Assemblée Générale et qui est suivi soit dans la même journée, soit le lendemain, de ce qu'on appelle la journée d'échange sur le syndrome Safo, qui est une journée scientifique où le conseil scientifique est invité à venir nous présenter l'état d'avancement de ses recherches. Donc c'est passionnant. Alors ils nous expliquent où ils en sont par rapport à l'année dernière. Et puis après, les personnes présentes peuvent poser des questions. Mmh. En amont, on envoie aussi des questionnaires au conseil scientifique qui leur permettent de faire des statistiques sur le vécu et les différentes conséquences de la maladie pour les personnes. Mmh. Et ces questionnaires sont analysés chaque année et à chaque journée scientifique suivante, on a les résultats des questionnaires de l'année d'avant.
C'est comme ça qu'on avance. Hein. Alors il y a le site internet www.airss-safo, c'est SAPHO.org. Michel, c'est un point commun de beaucoup des dents qui témoignent sur notre antenne d'être engagés dans l'association. Ça paraît naturel, ça paraît un besoin, c'est pour combler les manques qu'il y a par ailleurs. Enfin, pourquoi se retrouver comme ça dans ces associations?
Parce que depuis 1983 environ, avec la découverte du sida, les patients ont pris en main, au sens propre du terme, leur destin. Et effectivement, c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu de plus en plus d'associations de patients se mettre en place en disant « c'est nous qui vivons la maladie, nous avons donc une expérience, un vécu, mais nous admettons parfaitement que ce sont les médecins qui peuvent nous expliquer les raisons de ce que nous vivons. Simplement, les médecins sans nous ne peuvent rien faire et nous, sans les médecins, nous ne pouvons rien faire. Donc, nous allons monter des partenariats à la fois pour expérimenter les nouveaux produits pharmaceutiques qui pourraient être proposés et aussi pour mettre en place un certain nombre de choses concernant le vécu au quotidien de la maladie. Mmh. Donc, on a de plus en plus d'associations qui font un gros travail, effectivement, parce que elles permettent d'articuler la recherche et l'expertise du malade.
Dans quelques minutes, la parole aux aidants continue avec Hélène qui est avec nous au téléphone. On parlera du handi-sitting. Vous comprendrez ce que c'est dans quelques instants. Et puis de toutes ces sorties, ces vacances, tout ce qui peut permettre le répit de l'aidant. À tout de suite. La parole aux aidants tous les vendredis sur Vivre FM. Dans Vivre FM, c'est vous avec Michel Guimel-Chimbonnet, votre psychologue, et avec Hélène qui est au téléphone. Hélène est la maman de Marjolaine qui est atteinte du syndrome de Safo. C'est une maladie rare. Elle est âgée du syndrome Safo, oui, je le précise, et elle est âgée de 23 ans. Alors on parlait il y a quelques instants de l'aide très très conséquente que vous apportez à votre fille. Et on va parler maintenant des dispositifs de répit, des relais, de tout ce qu'on peut trouver. Est-ce qu'avant de connaître tous ces moyens, tous ces dispositifs, Hélène, il y a eu des périodes où justement il y avait un épuisement de votre part?
Ah ben, bien sûr, je pense que je suis pas la seule à le ressentir. Je connais un certain nombre de personnes dans notre région qui ont soit un enfant, soit un parent atteint d'une maladie chronique ou d'un handicap, qui vivent la même chose que moi. Il y a des moments où on aimerait bien pouvoir faire autre chose, ne serait-ce que aller faire les courses tranquillement ou sortir au cinéma sans se demander si il va pas se passer quelque chose pendant qu'on n'est pas là. Donc quelquefois on se refuse des sorties, on culpabilise si on le fait quand même. Voilà, il y a tout un tapis, l'épuisement physique et moral aussi par moments où on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, qu'on n'en fait jamais assez. Je pense que oui, c'est assez récurrent. Et on s'est rendu compte dans notre région, en Poitou-Charentes, qu'il n'y avait pas grand-chose pour aider les aidants. Donc on est en train de mettre en place, on a déposé nos statuts le 1er octobre 2010, donc c'est tout frais, un collectif interassociatif de soutien aux aidants. Donc interassociatif parce que ce sont des associations de malades de toutes pathologies confondues, aussi bien les pathologies du vieillissement que des maladies rares, des maladies chroniques comme des diabétiques, de la maladie de Parkinson, etc.
Parce qu'il y a des points communs dans l'aide, peu importe la pathologie.
La maladie, il y a des points communs. Par contre, il y a des besoins spécifiques selon la maladie et selon ce que doivent faire les dents auprès de la personne. C'est sûr qu'on n'a pas du tout le même besoin de soutien pour quelqu'un qui a une maladie psychique ou quelqu'un qui a des difficultés motrices, mais il y a des choses en commun. Et il y a surtout besoin d'un soutien et d'une reconnaissance. Et ça, c'est en train de venir. On pourrait peut-être presque même dire, entre guillemets, que c'est un peu à la mode, surtout au niveau des pouvoirs publics.
Tout
on a
fait.
Eu pas mal de colloques. Il y a eu la Journée nationale des aidants récemment, où on est allé. Il y a des
mutuelles, des assurances. Mais ça veut dire que ça avance concrètement dans le...
Mais ça avance, mais bon, au niveau du Poitou-Charentes, il n'y avait pas grand-chose. Donc, on a constitué ce service qui est un peu original. Parce qu'il existe une association nationale, l'Association française des aidants, qui travaille surtout sur Paris avec des cafés des aidants qui sont des groupes de parole encadrés par un psychologue à chaque fois. Donc nous, on a la même chose chez nous au niveau de l'écoute collective avec une psychologue. On propose aussi de l'écoute individuelle pour ceux qui en expriment le besoin. Et nous, notre particularité, c'est la coordination des soins. Parce qu'on s'est rendu compte qu'entre les aidants familiales, les aidants professionnels qui viennent à la maison pour faire des soins divers, kinésithérapie, aide-soignante, aide ménagère, etc., il n'y a pas toujours de communication constructive. Et chacun fait son soin en courant pour aller chez le patient suivant. Et quelquefois, il y a des absurdités... De manque de coordination, en fait.
Alors, Michel, sur ce terme de coordination, sur l'importance de coordonner toutes les personnes qui tournent autour et qui apportent leur aide à la personne malade.
C'est fondamental. C'est fondamental parce que c'est comme ça que la personne dépendante revient au centre des pratiques et des soins qui sont, en principe, faits pour elle. Donc, il est tout à fait important qu'il puisse y avoir cette collaboration entre les aidants familiaux et les aidants professionnels et à l'intérieur du groupe des professionnels entre les uns et les autres. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai toujours recommandé qu'il y ait un cahier de transmission dans lequel chaque personne qui passe met la date, met son nom et met deux mots sur ce qu'il a fait ce qu'elle a fait de plus important pour la personne dépendante. Mmh. Et c'est la possibilité pour le suivant de lire et de savoir ce qui s'est déjà passé.
Un petit mot aussi, Michel, sur les cafés des aidants, des initiatives très importantes, parce que l'idée qu'il y a derrière, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses assez formidables et dans leur coin et qu'on ne le sait pas toujours et qu'on peut perdre du temps avant d'avoir toutes les clés.
Alors, je vais rectifier, il n'y a plus de café des aidants à Paris. Il y a un groupe qui s'appelle Accompagner les aidants.
Il y en a ailleurs en France.
Mais il y a de nombreux groupes qui s'appellent Café des aidants en France et Outre-mer, et effectivement qui existent depuis 5 ans environ, qui sont très importants et qui sont très bien développés. Et il faut absolument interroger les municipalités dans les villes où on est pour savoir où se trouve le plus proche.
Hélène, vous avez mis en place un système de ce qu'on appelle handi-sitting. Alors vous allez nous expliquer qu'est-ce que c'est que le handi-sitting.
Voilà, alors c'est un petit peu le même principe que le babysitting, sauf que c'est adapté pour les personnes malades ou handicapées ou qui ont des pathologies du vieillissement et qui ont besoin d'une aide. Alors en général, l'aide est donnée par la famille en complément de celle qui est apportée ponctuellement dans la journée par des aidants professionnels, mais l'aidant familial a besoin, lui, de faire des choses à l'extérieur, ne serait-ce que d'aller lui-même chez le dentiste ou pour des soins personnels, parce qu'on a remarqué aussi, ça c'est une composante qu'on veut mettre en place, c'est de faire de la prévention sanitaire auprès des aidants qui souvent négligent leur
santé.
Suivi sanitaire pour eux,
bien sûr.
En disant, bon, la priorité, c'est la personne aidée.
Ça vous est arrivé, ça, Hélène, de refaire
Oh, oui, tout à fait.
De
dire, on va aller chez le dentiste le mois prochain.
Ouais.
Puis, en fait, voilà, on repousse, et puis...
et on y va quand la carie est insupportable.
Voilà, tout à fait. Alors ça, on est plusieurs à l'avoir vécu.
Bien sûr,
c'est
bien
un
sûr.
Exemple parmi d'autres. Parce que on n'arrive pas dans son planning à s'organiser pour prendre le temps d'y aller. Et quand la personne dépendante a besoin de présence intensive, comme des gens qui sont avec nous et qui accompagnent des gens qui ont la maladie d'Alzheimer, par exemple, c'est très difficile de s'échapper. Et pour ça, il faut trouver quelqu'un qui vient garder la personne pendant
qu'on peut sortir.
Voilà. Donc, mais pour ça, il faut trouver quelqu'un qui est préparé, qui est volontaire. Donc, nous, on voudrait travailler en réseau avec des... Par exemple, on a à côté de chez nous un lycée professionnel qui fait une formation bac pro, BTS et au-dessus pour les services à la personne avec des étudiants jeunes qui se destinent à cette profession et qui à qui on peut proposer des heures dans des sittings, justement. Alors, pour ça, il faut les sensibiliser et leur expliquer chez qui ils vont pouvoir aller et quels sont les besoins de la personne qu'ils vont garder pendant 2 heures, soit un après-midi, soit le soir, pour que l'aidant familial puisse
sortir.
Souffler un peu et sortir.
Un petit mot, Michel, sur ce, sur les personnes qui viendraient pour garder, entre guillemets, c'est pas seulement de la garde. Hein.
Non, c'est l'accompagnement, c'est la présence.
Voilà.
Il faut quoi? Il faut être volontaire au départ? Il faut être à l'aise avec ça? Il faut avoir des connaissances sur la dépendance?
Oui. Moi, je pense qu'il faut un minimum de formation, d'information, parce que on ne s'adresse pas à quelqu'un, qui est malade d'Alzheimer, par exemple, comme à quelqu'un d'autre. Il y a des trucs, hein, vraiment, c'est du niveau de la recette. Quelqu'un qui a perdu la tête, il faut s'asseoir en face de lui, lui prendre une main et le regarder en face. Et lui parler quand il n'y a aucun autre bruit autour. Vous ne mettez pas la radio ou la télévision pour vous adresser à une personne très âgée qui commence à être malade. Parce que sinon, elle ne comprend rien. Et du fait de ne rien comprendre, il va y avoir une surenchère des deux parties qui fait que le malentendu au sens propre comme au sens figuré va augmenter et faire une situation de conflit, ce qui est tout à fait dommageable. Donc effectivement, ça, il faut le savoir. Et si on ne vous l'a pas enseigné, vous ne pouvez pas l'inventer. Donc je pense qu'il faut être volontaire, il faut avoir un minimum d'informations sur ce que c'est que la maladie de la personne chez laquelle on va se rendre, et il faut aussi savoir entendre ce que va demander la famille tout en gardant sa propre inventivité et essayer d'apporter ce qu'on a envie d'apporter à la personne malade.
L'avantage, Hélène, de ce handi-sitting, c'est, et de ce dont vous nous parlez, c'est-à-dire des services à la personne, c'est les dispositifs qui sont mis en place, les chèques emploi-service, par exemple.
Voilà. Alors, donc, on a le réseau Iris en Poitou-Charentes qui propose justement divers services de travail temporaire solidaire et qui permet justement de dégager des heures grâce soit au chèque emploi-service, soit à une feuille de paie qui est faite par ce service. Voilà, et qui permet pour quelques heures à des volontaires de participer à ça. Alors ça, c'est, on l'a pas tout à fait encore mis en place, hein, c'est en projet pour 2011. Le principe qu'on veut essayer de faire appliquer pour les familles, c'est que on a fait des demandes de subventions pour que les 4 premières heures soient gratuites et qu'ensuite, si on demande plus d'heures dans le mois, ça soit avec un tarif dégressif. Voilà, jusque ensuite il y a à partir d'un certain nombre d'heures la personne paye à plein tarif. Voilà, donc c'est pour pouvoir donner l'occasion d'avoir quand même une base d'heures qui permet de souffler un
c'est
peu.
C'est pas beaucoup, Michel, hein, quelques heures par semaine.
Oui, mais c'est
énorme. Ça suffit pour avoir
par
ce
rapport
qu'on
à rien. Oui, c'est énorme. Voilà. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir. De toute façon, il faut qu'on ait des ambitions toutes petites pour qu'elle puisse durer très longtemps et qu'elle puisse s'agrandir petit à petit. Donc, en effet, ne serait-ce que une possibilité de s'absenter de la maison en étant sûr, en étant tranquille, avec l'esprit libre, en sachant que la personne dépendante va être entourée correctement par quelqu'un de chaleureux et d'attentif, C'est effectivement, même si c'est une fois dans la semaine, c'est énorme.
Et puis le répit, ça peut aussi être des sorties ou des vacances.
Bien sûr.
Un salut tout particulier à l'association familiale rurale de Aunac-Mansle qui a permis ces sorties de répit. Mais renseignez-vous, vous qui nous écoutez, hein, près de chez vous, il y a certainement des séjours de répit, des sorties qui peuvent vous permettre de souffler puis de voir aussi autre chose. Et il me reste à remercier Hélène pour son témoignage. Merci beaucoup Hélène de votre participation à cette émission. Dans quelques instants, c'est la dernière partie de La Parole aux Aidants. On répond à toutes vos questions. À tout de suite. Jusqu'à 13h, La Parole aux Aidants dans Vivre FM, c'est vous. Vous pouvez nous poser vos questions, vous qui vivez aux côtés d'une personne âgée, handicapée ou malade. C'est témoignage@vivrefm.com, témoignage@vivrefm.com, l'adresse mail pour raconter votre histoire ou pour poser une question à Michel Guimel-Chimbonnet, votre psychologue. Question de Françoise qui nous écrit de Sarlat, c'est en Dordogne. Je vis à la campagne avec ma mère qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Pendant l'hiver, nous sommes très isolés et je trouve que je n'ai pas assez de patience avec ma mère. Je m'énerve souvent. Suis-je une mauvaise fille ? Comment puis-je sortir de la solitude ?
Bien sûr que non, vous n'êtes pas une mauvaise fille, c'est évident. Mais c'est tellement difficile d'être à tous les instants sollicité par quelqu'un qui commence à vraiment perdre la tête, à ne plus savoir se repérer. Non, c'est normal d'être agacé, c'est normal d'avoir envie de souffler. Alors, pour ne pas tomber dans quelque chose qui pourrait s'approcher de la maltraitance, qui est un mot un peu fort, mais bon, il faut savoir que ça existe et quelquefois, indépendamment de la volonté des gens, il faut absolument trouver des moyens d'avoir du répit dans la journée ou
dans
la semaine.
Déjà, il faut en parler. Françoise le fait très franchement et très courageusement.
Tout à fait. Oui, parce que je pense que ce qu'elle dit là, des milliers d'autres personnes le ressentent de la même façon. Donc, il faut en parler, effectivement. Mais il faut essayer de trouver des moyens d'avoir du relais. C'est-à-dire qu'il faut trouver la possibilité de déléguer la présence auprès de la maman malade pendant quelques heures, dans la semaine par exemple, ce qui lui permettrait effectivement de se reposer, d'aller faire autre chose, de reprendre son souffle de façon à ne plus être agacé. C'est vrai que quand on est sous tension tout le temps, on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir et qu'on s'épuise, on épuise toutes les forces et toute la créativité qu'on a. Donc quand on peut faire une pause, on recharge ses batteries au sens propre du terme.
C'est étonnant parce que Françoise a utilisé le mot de solitude alors qu'elle vit avec sa maman quand même.
Oui, mais parce qu'elle n'a pas des échanges avec elle qui sont ceux qu'elle pourrait avoir avec un autre adulte dans une position équivalente. Elle s'occupe de sa mère probablement pas comme d'un enfant. Ce ne serait pas souhaitable, mais en tout cas comme quelqu'un qui est en perte de capacité.
La question de Fabrice du 19e à Paris. Mon fils de 15 ans veut partir en vacances au ski, mais il est en fauteuil roulant. Peut-il quand même partir et comment préparer les vacances ?
La première chose à faire est forcément déjà de demander au médecin si l'altitude est possible, s'il y a des contre-indications médicales. Bon, ça c'est la première chose à faire. Ensuite, trouver un organisme qui organise des vacances, alors je ne sais pas si c'est au ski, mais en tout cas des vacances à la montagne, à la neige, et ça il en existe. Il y a énormément de centres de vacances, ce qu'on appelle vacances adaptées, qui ont pignon sur rue. Il faut pas choisir n'importe laquelle, mais il y a des associations qui sont vraiment de grande qualité. Il faut choisir un séjour qui est adapté aux capacités de ce jeune, et ensuite, effectivement, organisé avec l'association, mais je n'imagine pas qu'il puisse y avoir un empêchement majeur pour que ce jeune aille à la montagne. Alors, qu'il fasse du ski, ça, évidemment, je ne sais pas, mais en tout cas, qu'il passe du temps à la neige, oui, pourquoi
pas. Puis le ski, c'est pas forcément 8 heures par jour.
Ah non, bien sûr que non.
On n'est pas à la compète. Hein.
Non, de toute façon, non, ça, je suis fondamentalement rétive à la compétition.
Question de Régine qui nous écrit du 9e arrondissement de Paris. Ma mère est âgée et diabétique. Elle a des piqûres à faire tous les jours et l'infirmière vient. Le problème, c'est qu'elle n'est pas du tout gentille avec elle. Et j'ai peur que l'infirmière renonce à venir. Que puis-je faire ?
Ben, normalement, l'infirmière doit bien comprendre que cette dame souffre à la fois physiquement, parce que des piqûres, une piqûre par jour, c'est quand même très pénible, et moralement aussi, parce que se voir dans cet état, c'est difficile et douloureux. Et donc, je pense que l'infirmière, par sa formation, par son expérience professionnelle, doit savoir que ce qui est les reproches ou la méchanceté, entre guillemets, de la vieille dame, ne sont pas adressés à la personne, mais sont bien adressés à la fonction. Donc, si l'infirmière est à la hauteur de sa tâche, elle sait faire la différence en ce qui, entre ce qui est personnel et ce qui est professionnel.
C'est difficile hein, quand même que le succès d'un traitement soit conditionné à quelque chose de douloureux. Enfin, comprenez,
on
prend des traitements pour pas être malade, pour même pour ne pas avoir mal, et puis pourtant ils font mal.
Et quelquefois ils font mal, et quelquefois, comme on l'a vu récemment, avec les certaines annonces qui ont été faites sur certains médicaments, quelquefois ils tuent, effectivement.
Qu'est-ce qu'elle peut dire, Régine, à sa mère ou alors à l'infirmière ? Qu'est-ce qu'elle peut
Alors, elle peut de toute façon dire à sa mère, d'abord, que qu'elle soit en colère ou pas, ça ne changera rien, et le médecin, je pense, ne va pas abdiquer et va demander que le traitement continue d'être administré. Ça, c'est la première chose. Mais peut-être aussi qu'elle peut essayer de tranquilliser sa mère, de parler avec elle. Et si elle, elle ne peut pas le faire, trouver quelqu'un qui pourra le faire, un professionnel qui pourra le faire. Si l'infirmière a un collègue, peut-être que quelquefois, ça pourrait être un ou une collègue qui viendrait de façon à ce qu'elle n'ait pas toujours... Enfin, que la dame n'est pas toujours le même interlocuteur. Ça aussi, ça peut être sympathique. Enfin, essayer d'aérer la relation. Je crois que c'est vraiment important dans tous les cas, de toute façon.
Question de René qui nous écrit de Torcy. Question difficile. Ma fille autiste est dans son monde. Parfois, elle a des colères très violentes et difficilement supportables. L'autre jour, il faut bien le dire, j'étais à deux doigts de la frapper. J'ai honte d'avoir ressenti ça. Suis-je un monstre et que dois-je faire ? C'est René.
Non, elle n'est pas un monstre. Alors ça vraiment.
Alors René est un homme, mais c'est pas.
Il n'est pas un monstre, non. Absolument. Par ailleurs, on comprend très bien qu'il ait été à deux doigts de la frapper, et je trouve admirable qu'il se soit retenu, parce que parfois il y a des parents qui sont de bons parents et le geste leur échappe. Donc non, c'est pas du tout une question de monstruosité, mais ce qu'il faut faire absolument, c'est d'abord voir si un éloignement momentané dans la semaine ou dans le mois peut se faire entre l'enfant autiste et la famille. Ça, c'est déjà une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que il faut absolument que ce monsieur puisse parler de ce qu'il ressent et de la douleur qu'il a d'avoir un enfant autiste. Parce que en fait, c'est ça la question.
C'est la fatigue aussi, hein, parfois, tout
l'épuisement,
simplement.
L'épuisement, bien sûr.
On est complètement à bout, quoi.
Ah oui, oui, tout à fait.
Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Il faut pouvoir dormir, par exemple.
Ben oui, mais c'est pour ça que, moi je dis souvent, il faut vraiment trouver des solutions de répit, et il en existe. Mais ça suppose aussi que la famille va accepter de déléguer son rôle. C'est-à-dire que quelqu'un vienne dormir à la maison et que ce monsieur aille dormir ailleurs, par exemple. Ou bien que l'enfant, ça dépend de l'âge de l'enfant, mais que l'enfant aille dans une structure d'accueil pendant quelques jours. Comme quand on part en week-end, bon, ben voilà, c'est la même chose. Donc, en fait, c'est absolument nécessaire de rompre momentanément la relation et ensuite de la reprendre, mais on la reprend en étant apaisé. Et c'est ça qui fait qu'on peut la reprendre, et on peut la reprendre dans de bonnes qualités, de bonnes conditions.
Charlène nous écrit du 1er arrondissement à Paris. Ma fille de 19 ans est polyhandicapée. La MDPH nous a proposé qu'elle aille vivre en semaine dans un foyer médicalisé. Est-ce une bonne décision ? Et comment être sûr que le personnel saura s'en occuper aussi bien que moi ?
Ben voilà, c'est ça la question. Faire confiance aux autres. Mais oui,
on est inquiet, c'est normal quand c'est quelque chose de nouveau.
Mais bien sûr qu'on est inquiet. Mais en même temps, si on ne se fait confiance qu'à soi-même, on s'enferme avec la personne dépendante. Or, la vie, c'est justement l'ouverture et pas l'enfermement. Donc, il est absolument important d'aller visiter le foyer, d'aller visiter avec l'enfant, évidemment, et de demander à l'enfant si elle est d'accord ou non pour vivre dans ce foyer. Mais vous savez, quelquefois, on se fait une montagne d'un éloignement qui peut être tout à fait bénéfique. Et certains enfants sont très contents à la fois d'être dans un foyer pendant la semaine et de rentrer à la maison le week-end. Ils ont quelque chose à raconter. Alors que quand on est en face à face toujours avec la famille, on finit par n'avoir plus rien à raconter.
Et la fille de Charlène à 19 ans, c'est peut-être aussi un âge où
on a envie de voir autre chose. Bien sûr, mais tout à fait. Elle pourra avoir des copines là-bas.
La dernière question maintenant. Séverine nous écrit de Montigny, le Bretonneux. Ma fille de 4 ans est atteinte d'une maladie rare. Elle se réveille beaucoup la nuit et crie tout le temps. La nuit, justement, personne n'est là pour m'aider. Je crois que je vais craquer. Comment me faire aider?
Toujours la même chose, essayer de voir avec sa famille, avec son entourage, avec des professionnels, s'il est possible que quelqu'un prenne la relève. Par ailleurs, il y a une question alors vraiment psychologique qui est à voir, à savoir que en fait, parce que l'enfant a une maladie rare, la famille, les parents, la mère, mais pas seulement la mère, ça peut être les frères et sœurs, vont avoir un comportement vis-à-vis de cet enfant qui va être ambivalent. En même temps, on surprotège l'enfant malade et en même temps, on peut avoir des comportements de rejet parce que c'est vrai que c'est tellement difficile, c'est tellement angoissant, c'est tellement lourd qu'on se laisse aller inconsciemment à avoir ces comportements de rejet ou des paroles qu'on regrette à peine sortie de la bouche. Donc, je crois que c'est très important pour les familles, pour les parents, de parler à quelqu'un d'extérieur, mais à un professionnel, un psychologue ou un psychiatre, quelqu'un qui est capable d'entendre ce genre de choses, d'en parler de façon à apaiser la relation qu'ils vont avoir avec leur enfant. Et à ce moment-là, peut-être qu'elle continuera encore un petit peu à crier, mais je ne pense pas qu'une maladie entraîne les cris. C'est vraiment l'état de la relation qui entraîne les cris.
C'est vraiment un moment particulier, difficile la nuit. Est-ce que c'est aussi un moment où les êtres ne sont pas là? C'est ce que nous dit Séverine. Il y a des moments comme ça. Il y a des périodes de vacances. Il y a aussi la nuit où c'est rare d'avoir quelqu'un 24 heures sur 24 à la maison.
Tout à fait. Mais c'est vrai aussi que c'est la situation qui génère certains dysfonctionnements et c'est pas la maladie qui les génère. Donc c'est sur la situation, on peut agir.
Retenez bien cette adresse, témoignage@vivrefm.com. Vous pouvez témoigner dans l'émission, raconter votre histoire. Vous pouvez aussi poser une question, Michel Guimet-Chambonnet y répondra. Dans quelques instants, les appels à témoins. Vivre FM, c'est vous, quel sera le thème de lundi, vous le saurez. Et merci beaucoup Michel.
Au revoir Christophe.